Vous écoutez France Culture.
Sentenza. Accusazione slancio.
I giovani carabinieri si sono trovati quindi in pochi.
Non avete dignità! Non sapete cos'è la nobiltà d'animo! Non sapete cos'è la democrazia! Non sapete cos'è la libertà!
La reazione di difesa avec l'una tragica reposa.
Tout ce qui essaye de gâcher notre réunion ne représente pas la voix des pauvres.
Carlo Tigani, 23 ans, s'apprêtait à lancer un extincteur sur le jeep des
Carabiniers. Les autorités italiennes s'attendaient au pire. Le pire est donc arrivé. On doit être
ainsi la main d'un carabinier qui s'apprête à tirer sur
lui. In particolare.
De la fameuse zone rouge.
Gênes 01 de Fausto Paravidino, traduit de l'italien par Philippe Di Meo et publié aux éditions de l'Arche. Enregistré en public au Théâtre National de Strasbourg le 9 avril 2011, avec les élèves comédiens des groupes 39 et 40 de l'école du TNS.
Mardi 28 mai 2002. Les grands se réunissent à Pratica di Mare, dans les environs de Rome, pour discuter de l'élargissement de l'OTAN, du renforcement des mesures antiterroristes et de la plausible et future entrée de la Russie dans l'Europe.
Fin de la guerre froide, début de la guerre chaude. Tous nos vœux.
Le même jour, Amnesty International publie son rapport annuel.
L'Italie est dénoncée à cause des tortures perpétrées par les forces de l'ordre sur des citoyens italiens et étrangers lors des sommets de Naples et de Gênes.
Les États-Unis et les pays membres de la coalition antiterroriste sont dénoncés parce que les lois antiterroristes s'avèrent incompatibles avec la Déclaration des droits de l'homme.
La manifestation de protestation contre le sommet de Pratica di Mare, contre le renforcement du bras armé des solides valeurs du capitalisme occidental, contre les nouvelles lois antiterroristes, part de la place Venezia et parvient place Navona.
Nous sommes 300, jeunes et forts, et nous allons bien. Merci.
Des 300 000 de Gênes, certains ne sont pas présents. Les Black Blocs ne sont pas là. Agnoletto et Casarini ne sont pas là. Le réseau Lilliput n'est pas là. Manu Chao n'est pas là. Les Global Forums se démènent en vue du sommet de la FAO, qui est plus important. Personne n'en a rien à foutre de l'OTAN.
Elle intéresse seulement les grands habituels qui, en effet, sont là. Leur arrogance est là, l'habituelle confusion entre les menaces constituées par le terrorisme islamique et celles des no-globals est là aussi, et les batteries antimissiles sont là, avec les Celerini, sorte de CRS transalpins, pour surveiller la manifestation.
Le sentiment qu'ils ont vaincu,
le sentiment d'avoir perdu.
Nous, les Kurdes,
les Palestiniens,
le peuple afghan,
l'Irakien,
le tiers-monde,
les non-violents.
Quand avons-nous perdu ?
Quand les social forums ont-ils décidé que cette fois, il valait mieux éviter un contre-sommet pour ne pas faire mauvais effet ?
Quand le deuil imposé autour du 11 septembre a soutenu la propagande de Bush ?
Avec nous ou contre nous ?
Avec Coca-Cola ou avec les talibans ? La cravate ou la burqa, l'OTAN ou les violeurs de ta sœur, les assassins de ta tante.
Quand après la mort de Carlo Giuliani, Agnoletto a dit « Nous avons gagné ».
Quand le gouvernement a pensé
« À Gênes, on va leur en mettre plein la gueule, pire qu'à Naples ».
Partons de Gênes.
«
Sur ma carte d'identité, on lit « Né à Gênes ». On me demande maintenant, avec un mélange de compassion et de colère, tu y étais ?
Je n'y étais pas.
Moi, si.
Je sais. Gênes était une ville et malgré tout, elle l'est encore. Mais en plus, elle est devenue un lieu de l'esprit. Elle représente d'autres choses. La célébration du pouvoir, sa contestation qui se manifeste, la tragédie qui couvre et découvre toutes choses. Comme lieu de la tragédie, elle est au niveau de Thèbes. Mais la tragédie est dans le présent, elle ne peut pas encore être célébrée comme métaphore. Et cela implique qu'elle doit être de bout en bout réécrite jour après jour.
La tragédie n'a pas besoin de se représenter, parce qu'elle l'est.
Les protagonistes des journées de Gênes, ces héros, ne peuvent pas encore devenir des personnages, ils sont encore des personnes. Ce sont donc les personnes qui doivent parler. Ceci est un récit au présent de personnes réelles, des amis, des journalistes. On a déjà écrit tant de livres et fait tant de films sur Gênes. Ils commencent tous de la même façon. Ceci n'entend pas...
être une reconstitution fidèle des événements de Gênes, mais une chronique de ce que j'ai pu observer personnellement.
D'habitude, ils commencent par le prologue.
Ils ne sont pas 8 aujourd'hui, ils sont une quinzaine de chefs d'État, car le point fort de ce sommet, c'est la pauvreté, avec le lancement d'un fonds mondial pour la santé. 1 milliard de dollars devrait être donné aujourd'hui par les 7 pays les plus industrialisés. Le fonds sera lancé officiellement cet après-midi pour lutter contre les 3 pandémies que sont le sida, le paludisme et la tuberculose. 5 millions de morts par an. La maladie est un frein au développement, comme l'est également le fardeau de la dette. On va donc travailler...
La tragédie n'a pas besoin de se représenter, mais le pouvoir en a besoin. Même le pouvoir démocratique. C'est pourquoi on invente le G8. La fête des puissants où les 8 qui s'auto-qualifient de grands font étalage de leur puissance et de leur plaisir d'être ensemble. S'auto-invite.
Bush, Poutine,
Schröder,
Chirac,
Blair,
Berlusconi,
Koizumi,
Chrétien.
Maintenant... avant de nous demander ce qu'ont en commun les 300 000 personnes du contre-sommet, je pense qu'il serait opportun de se demander ce qu'ont en commun les 8 du sommet.
Ben, sans aucun doute leur façon de s'habiller, le pouvoir et grosso modo l'âge. Le plus âgé, Chirac, est né en 1932 et le plus jeune, Blair, en 1953.
Et puis ?
Ils sont tous des représentants du peuple démocratiquement élus par au moins 10% des inscrits.
Ils veulent être aimés et ils savent qu'ils ne le sont pas.
Et puis ?
Ils sont riches. On dirait une connerie, mais ce n'en est pas une.
Avoir en commun la richesse et la puissance est quelque chose d'important.
Être très riche et très puissant suffit pour s'auto-élire représentant du monde.
Car si Bush préside les USA avec 10% des voix, ces 8-là peuvent représenter le monde entier avec 10% des voix de la population mondiale.
Mais surtout, ils peuvent le représenter en tant que président directeur généraux de 80% de la richesse mondiale.
Sao Paulo du Brésil est une ville étrange. Elle ressemble beaucoup à Metropolis, le film de Fritz Lang, car elle est construite sur des couches sociales verticales.
Les pauvres s'étendent en largeur, les riches en hauteur.
Au niveau de la rue, une majorité écrasante de la population vit parmi des tôles. Aux étages inférieurs des gratte-ciels, des gens traversent la rue, seulement en voiture, toutes vitres fermées.
Aux derniers étages, des gens se déplacent en hélicoptère d'un toit de gratte-ciel à un autre. On y trouve des bureaux, des restaurants, des terrains de golf.
Les habitants de ces étages n'ont jamais mis un pied sur la terre, mais bien entendu, ils la gèrent.
Je demande naïvement à un écrivain de Sao Paulo si, aujourd'hui, le Brésil est un pays démocratique.
Il me répond que, formellement, c'est le cas, car tout le monde a le droit de voter, mais dans la pratique... peut-on qualifier de démocratique un pays avec de telles différences sociales ?
Dans les étages supérieurs des gratte-ciels de Sao Paulo vivent les grands entrepreneurs et leurs représentants, le bras politique de leur entreprise, qui sont appelés représentants du peuple.
Ce sont les présidents, directeurs généraux, des présidents, directeurs, présidents, directeurs, présidents, directeurs, présidents.
Quittons le Brésil. Revenons au monde. rien ne change vraiment.
Le président du conseil italien est numéro 29 au classement des personnes les plus riches de la planète. Il s'occupe surtout de bâtiments et d'informations.
Bush, comme son père, l'ex-président, est le propriétaire d'un empire pétrolier. Sa campagne électorale a été principalement financée par Enron, un colosse pétrolier qui a fait banqueroute. La banqueroute a été occultée et habilement dissimulée par le parti de Bush. Elle a entraîné la ruine d'une myriade de petits actionnaires et laissé sans travail ni retraite des milliers d'ex-employés du colosse.
La campagne électorale de Blair a été financée mystérieusement, elle aussi par Enron, un colosse pétrolier américain qui porte au pouvoir un premier ministre anglais.
C'est ce qu'on pourrait commencer à appeler la mondialisation.
Une loi américaine récente stipule que, vivant dans un pays libre, tout candidat a le droit d'utiliser ses richesses personnelles pour soutenir sa campagne électorale.
C'est ce qu'on pourrait commencer à appeler une ploutocratie. Ploutocratie veut dire pouvoir de l'argent. Démocratie veut dire pouvoir du peuple.
Nous vivons dans une société capitaliste, ce n'est pas une nouveauté.
Ils disent que nous l'avons choisie et c'est peut-être vrai.
C'est vrai, si nous tenons pour vrai, que nous ne savons pas bien ce que nous avons choisi.
La société capitaliste actuelle est transnationale.
Le libéralisme capitaliste, qui s'oppose au froid totalitarisme communiste, favorise l'internationalisation des capitaux.
Cela veut dire, grosso modo, j'ai de l'argent, j'achète des matières premières auprès des pauvres, je les revends à ceux qui sont un petit peu plus riches, je deviens richissime.
Les pauvres ne sont pas en position de comprendre, et encore moins d'enrayer ce mécanisme.
Ceux qui sont un petit peu plus riches essaient de l'aimer parce qu'ils se bercent dans le rêve selon lequel le libéralisme leur donne la liberté de devenir riches.
Les riches contrôlent l'ignorance des pauvres, ils alimentent les espoirs des moyens de devenir riches, et ils prospèrent.
Dans les vieilles sociétés nationales, aux frontières étroites, ces riches étaient en concurrence entre eux pour ce qui est de la prospérité.
Dans cette société transnationale où les 4/5 de la planète sont à vendre et où le 1/5 restant achète, les quelques riches ne sont plus en concurrence. Ils sont alliés pour maintenir cet état de choses irrationnel.
Ces quelques riches constituent une société internationale de personnes qui gèrent les ressources de la planète et en administrent le pouvoir.
Il n'existe pas une liste officielle de ces puissants, et eux n'ont pas besoin non plus de se réunir tous ensemble pour discuter des lignes de conduite et faire des réunions plus ou moins secrètes, parce qu'ils sont déjà d'accord.
Ils se comprennent au vol.
Ils nomment leurs représentants nationaux et leur délèguent la défense de leurs intérêts et la tâche ardue des relations publiques, faire croire à tout le monde que le bien de ce clan serait le bien de tout le monde.
Le 20 juillet 2001... Ses représentants s'appelaient Bush, Poutine, Chirac, Schröder, Blair, Berlusconi, Koizumi, Chrétien.
Ils n'avaient absolument rien d'important à décider.
Les décisions à leur avis importantes risquent d'être si désagréables qu'il vaut mieux les prendre loin des projecteurs. Ou bien les déléguer à des organes idoines comme l'Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.
La tâche qui leur revenait était de faire de la publicité.
Prouver que ce qui se passe au-dessus de nos têtes et hors de notre contrôle est pour notre bien.
En effet, paradoxalement, si l'on exclut le bouclier spatial, ils se sont réunis au nom d'un ordre du jour humanitaire.
Ils voulaient se faire photographier tandis qu'ils parlaient de la faim dans le monde, du sida, de la pollution, de la réduction de la dette des pays pauvres.
Ils voulaient se faire voir du monde entier en train de faire l'aumône.
Peut-être est-ce cela qui a provoqué un record absolu de contestation.
Peut-être est-ce cette hypocrisie qui a rempli les rues. Peut-être que ceux qui sont descendus dans les rues ont brusquement pensé...
Si tu me la mets dans le cul, ça n'est pas très agréable, mais j'y suis habitué, c'est ton travail. Mais si tu me dis que tu le fais pour mon bien, alors je vois rouge.
L'hypocrisie dévoilée pouvait être un vrai problème.
Ici, les grands risquaient de ne pas accomplir la tâche qui leur avait été confiée. La propagande.
Ils devaient réagir.
Les pratiques habituelles en pareil cas sont au nombre de deux. Si l'adversaire est petit, on l'élimine. S'il est gros, on cherche à le discréditer.
Ils ont fait l'une et l'autre chose. Ils ont confié cette tâche avant tout au maître de maison.
Italia! Si sono messi a strumentalizzare la paura, la speranza, il dolore, i morti, vergogna!
maître des cérémonies est Silvio Berlusconi, le président du Conseil italien, un qui s'y entend en publicité.
Il mise tout sur deux points fondamentaux.
Primo, faire bonne impression. Secondo, élever le niveau de l'affrontement de manière à pouvoir montrer ses muscles à ses partenaires et au peuple.
Il commence à se prodiguer dans ces deux directions.
Identifier quelque chose susceptible de séduire dans le même temps les 7 partenaires mondiaux, vis-à-vis desquels il semble nourrir un sentiment d'infériorité terrible et typiquement italien, et son électorat encore jeune. Berlusconi vient tout juste d'être élu, et le centre-gauche lui a laissé ce guépier du G8 en héritage. Voilà, telle semble être la difficulté.
Il a 2 mois, à peine, pour prouver qu'il est un travailleur, et pour arriver fin prêt aux 10 sommets, afin que nous fassions tous bonne impression.
Il commence donc à s'occuper des détails afin de sauver les apparences.
Pour ce qui est de sauver le fond, il n'en est guère besoin car, comme on l'a dit, à Gênes, les grands se réunissent seulement pour la photo de groupe.
Dans le même temps, il commence à préparer sa puissante machine défensive.
La CIA fait savoir que les menaces sont au nombre de 2. Le terrorisme islamique, tout particulièrement en la personne d'un certain Ben Laden, que Clinton chercha autrefois à faire assassiner mais sans succès, et les mouvements de contestation du sommet, des gens qui brisent les vitrines.
Berlusconi sait que son électorat comprend une chose à la fois, et qu'il ne se soucie guère de faire une distinction entre les terroristes et les no-global.
Par ailleurs, même après le 11 septembre, il ne se souciera pas de faire cette distinction.
La stratégie publicitaire consiste à proposer une division nette, bipolaire, entre les bons et les méchants.
D'un côté, il y a nous. Les gens bien comme il faut, qui s'habillent élégamment, qui travaillent. De l'autre côté, il y a eux. Les no-global, les punks, les violents, les terroristes arabes.
Toi, de quel côté es-tu?
Donc?
Il divise Gênes en 3 zones. Au centre, la zone rouge, celle où se tiendra le sommet. Là, personne ne peut entrer sans son laissez-passer, qui n'est toutefois délivré qu'à l'intérieur de la zone rouge. Quant à ses habitants, il vaut mieux qu'ils s'en aillent, tandis que les magasins doivent rester ouverts, sinon elles ressembleraient à une ville fantôme. Mais ils ne vendront rien, car il n'y aura que les premiers ministres, les journalistes et les forces de police.
Il fait fermer les passages menant à la zone rouge à l'aide de blocs de ciment surmontés de grillages de 3 à 5 mètres de hauteur. Sur les toits des immeubles, il éparpille ses tireurs d'élite qui projettent des ombres étranges dans les rues.
Il couvre les façades des immeubles qui ne lui plaisent pas avec des représentations d'immeubles qui, au contraire, lui plaisent d'un goût néoclassique personnel, le sien. Il fait transférer 600 ou 700 détenus de la prison de Gênes vers d'autres prisons afin d'avoir à sa disposition autant de lits. Il procède de la même façon avec les hôpitaux et 200 sacs en plastique sont commandés afin de ne pas se retrouver pris au dépourvu face à un nombre éventuel de cadavres.
Dans la zone rouge, de faux citrons, gros comme des cédramures, sont attachés avec du fil de nylon à la place des citrons véritables, qui, à cause de la latitude, ne sont pas encore mûrs.
Gênes est tenu par 18 000 policiers. Autour de Gênes sont installées des batteries antimissiles. Sur les collines environnantes sont déployés les détachements de la CAFOR de retour du Kosovo. Dans le golfe de Gênes, des hommes grenouilles, des policiers amphibies, sont prêts à défendre les grands contre une attaque éventuelle de Godzilla.
Berlusconi demande aux habitants de Gênes de ne pas étendre leur linge sur leur balcon afin de ne pas donner une image débraillée de leur ville. L'un des slogans de la contestation sera « Sortez les culottes ». De nombreux Génois participeront à la protestation en faisant les premières lessives révolutionnaires de notre histoire républicaine.
Au-dessus de la ville, l'espace aérien est fermé et, dans la zone rouge, les téléphones portables sont brouillés car les commandes à distance des bombes utilisent la même fréquence.
Berlusconi choisit personnellement les menus et le papier à lettres à offrir à ses hôtes.
Déjà très populaire en Italie, une stratégie de la tension est mise en œuvre. Dans les jours précédant le G8, de petits paquets explosifs sont acheminés et des alertes sont diffusées à propos de possibles bombardements de sachets de sang infectés de la part des no-global.
Toute cette prodigieuse mise en scène coûte 130 millions d'euros.
Berlusconi déclare fièrement qu'il a transformé Gênes en faisant jeter bas de vieux immeubles pour en édifier de nouveaux.
Perico, le maire de Gênes, réplique Oui, il a fait comme le magicien Tsurli.
Moi, il me rappelle plutôt Mobutu.
Mobutu ? À Kinshasa, lors de la rencontre historique entre George Foreman et Mohamed Ali. Mobutu, le maître de cérémonie, plus connu comme dictateur sanguinaire, se mit en quatre pour nettoyer la ville et faire bonne impression face aux journalistes. On dit que le stade, bâti au-dessus des prisons, empestait encore de sang au cours du match. Moi, il me rappelle Mobutu, l'homme au couvre-chef en peau de léopard.
Mais il faut dire qu'avant même que l'égoarque bien de chez nous se jetât à corps perdu dans l'organisation de cette kermesse, les signaux des préparatifs étaient inquiétants.
Dès février 2001, dans la caserne des carabiniers de Gorizia, le commandant commença à entraîner ses hommes. Il expliqua aux officiers que les No Global étaient des gens violents et dépourvus de scrupules, que pour les affronter, on leur permettrait d'utiliser n'importe quel moyen. Il organisa des manœuvres. Les élèves officiers devaient jouer le rôle des manifestants, les officiers le leur. Les manœuvres se conclurent avec plus de 20 blessés, dont 3 avec un pronostic de guérison supérieur à 40 jours.
Et à la fin mars, à Naples, il y eut une autre répétition générale du G8, cette fois avec de vrais manifestants. La répression fut impitoyable. On en parla peu à l'époque, on en parla beaucoup après Gênes.
À Göteborg, en juin, la police suédoise tira sur les manifestants. Les télévisions du monde entier montrèrent un contestataire touché d'une balle dans le dos, tombé à terre en cherchant à fuir.
Le gouvernement suédois s'excusa et dit que par le passé, en Suède, pays civilisé s'il en est, il n'y avait jamais eu d'affrontement de rue et que les policiers n'étaient pas préparés. Ils n'étaient pas équipés de balles en caoutchouc ni d'autres franc-frelus anti-émeutes.
Se sentant attaqués, ils avaient tiré.
L'Italie possède au contraire une glorieuse tradition d'affrontement de rue, mais on n'a pas pour autant distribué de balles en caoutchouc.
Cela dit, tout est prêt pour le premier acte et pour ceux qui suivront. Jeudi.
Les No Global arrivent.
Ils n'attaquent pas depuis la mer et ils ne défient pas les batteries antimissiles. La plupart d'entre eux arrivent en train.
Comme si c'était des êtres humains.
Les représentants des No Global réunis à Gênes constituent une armée de 200 000 personnes adhérant aux plus célèbres organisations terroristes internationales.
Les Verts.
Médecins sans frontières.
Amnesty International.
Et Fondazione Comunista. Qui ne rate aucune occasion.
Les Antisociali, les Case Occupate,
les Cobas,
le réseau Lilliput, les Sœurs Anglicanes,
Archi Manifese,
le corps anti-impérialiste et les Nubes.
Ignacio Ramone, le directeur du journal subversif Le Monde Diplomatique.
Attaque de Bernard Cassel et Suzanne Georges. L'association française est liée au Monde Diplomatique, qui se bat pour une économie plus juste. Elle soutient en particulier l'introduction de la taxe Tobin sur la taxation des transactions internationales de capitaux.
José Bové, le paysan français qui manifeste contre les manipulations génétiques dans le secteur alimentaire.
Récemment condamné pour avoir jeté du caca de vache sur un McDonald's.
Big vache.
Emergency, l'organisation des volontaires menée par Gino Strada, qui remplit les victimes des mines antipersonnelles et soutiennent une campagne contre les mines qui plaît beaucoup à l'ONU, mais pas du tout à Bush.
Wicklem the Streets, le groupe anglais qui commence à voici quelques années à occuper les routes et les autoroutes avec de grandes fêtes pour réclamer la nécessité d'un espace public.
Et puis, il y a tout un tas de personnes qui ne font partie d'aucune association et qui peut-être ne savent même pas quels sont les objectifs du mouvement. Si tant est que le mouvement ait des objectifs communs.
Oui. Il y a tout un tas de gens qui ne se sentent pas représentés par les 8 grands et peut-être pas même par le parti de gauche, les DS, et qui s'est rendu à Gênes pour voir ce qu'est ce mouvement, si on peut participer, s'il y a de la place pour tout le monde.
Les associations, plus de 700 groupes, ont des histoires différentes et plus ou moins anciennes. Le mouvement qui les regroupe a une dizaine d'années. Il est né à Seattle et il passe par Davos,
Porto Alegre,
Prague,
Nice,
Naples,
Göteborg.
Dans l'ensemble, anarchiste et inorganisé autant que l'on voudra, c'est le plus grand mouvement de critique de l'indéfendable système capitaliste et post-colonial, d'inspiration non communiste.
Le seul d'après la chute de l'Union soviétique.
Un grand agglomérat de groupes et d'idées dans lesquels peut se reconnaître quiconque verrait dans l'ordre actuel du monde une maladie au pouvoir.
Les associations et les manifestants sont toujours plus nombreux, car dans leurs différences, ils ont trouvé des choses qui les rapprochent.
La différence, par exemple.
Le fait de ne pas se sentir représenté par ces 8-là.
Vous, G8.
Nous, 6 milliards.
Le fait de croire qu'un monde différent est possible.
La conscience qu'il y a des choses que nous devons défendre nous-mêmes, car ce ne sont certes pas ces 8-là qui les défendront.
L'environnement.
Les différences culturelles.
Les droits de l'homme.
Le traité de Kyoto et celui sur le déminage.
Il y a des problèmes, comme la faim dans le monde ou le sida, que le président du Conseil italien qualifie d'inconvénients. Et il promet qu'on parlera de ça aussi.
Oui, mais dans l'ordre du jour des travaux du G8, le bouclier spatial destiné à nous protéger d'une attaque des Martiens est plus important.
Le mouvement est altermondialiste. Il est difficile de définir exactement ce qu'est la mondialisation.
Et l'étiquette de « no global » elle-même est une invention plus médiatique que partagée par les manifestants qui, en réalité, sont les premiers à faire usage de la mondialisation.
Eh bien, c'est un mouvement qui se présente comme mondial et utilise Internet comme principal instrument de communication.
Le mouvement prend pour cible les aspects les pires de la mondialisation, ceux qui la font le plus ressembler au colonialisme.
L'un des plus évidents est lié au fait que le marché global se fonde sur une exploitation par le premier monde des ressources énergétiques, environnementales et humaines du tiers-monde.
Sous l'habile coordination de l'Organisation mondiale du commerce et de la Banque mondiale, il fait des profits en appliquant des logiques d'exploitation.
Les gouvernements occidentaux s'essoufflent dans une course à qui aura le plus gros PIB. Ils voient toujours plus la politique comme une compétition d'administration économique, selon les règles du capitalisme sauvage imposées par les USA, qui sont les premiers à ne pas les respecter, d'ailleurs, parce qu'ils ont une force militaire suffisante pour les mettre à l'abri de tout type de critique.
Dès qu'on parle de PIB, de développement, on s'effraie parce que la vente des automobiles est en chute libre, tandis qu'1,2 milliard personnes n'ont pas accès à l'eau courante.
Avec la même décence qui fait des aveugles, des non-voyants et des sourds, des malentendants, les pays sous-développés sont devenus des pays en voie de développement.
Ces pays qui sont en train de se développer n'ont pas l'eau courante. Et ils ont même vendu leur oxygène.
Un protocole concernant l'environnement, antérieur à celui de Kyoto, décrétait une limite pour les émissions de monoxyde de carbone. Grosso modo, la limite était fixée en fonction de la surface du pays produisant du CO et de sa végétation. Si on produit 1 mètre cube d'oxygène, on peut produire 1 litre de CO.
Les États-Unis ont signé ce protocole. Ils se sont aperçus qu'ils produisaient un excédent de cochonnerie en regard de ce même protocole. Et ils ont commencé à payer en dollars les quotas d'oxygène des pays en voie de développement qui, n'étant pas industrialisés, avaient de l'oxygène en excédent.
Ces pays se sont retrouvés avec une poignée de dollars en main. Si maintenant ils voulaient bâtir une petite usine, ils ne recevraient aucune autorisation parce qu'ils ont vendu leur oxygène aux USA.
La politique internationale des 8 grands G est une politique économique d'exploitation. Ils mangent des trenette al pesto au nom de cela. L'enfant qui saute sur une mine antipersonnelle est un inconvénient, la production de mines une ressource.
Le mouvement altermondialiste propose une autre politique,
C'est pourquoi il existe.
C'est pourquoi il organise une grande manifestation pour parler de cet autre monde différent et possible.
Pour exprimer un désaccord.
Pour se compter. Pour se sentir moins seul et moins fou.
Pour chanter et danser.
Pour faire un peu de propagande ensuite. Parce que la participation à la vie politique de ceux qui étaient à Gênes ce jour-là ne consiste pas à organiser des manifestations.
Toutes les associations, chacune dans son camp, travaillent, comme dirait Berlusconi. Ce n'est pas un mouvement de fainéants qui passe des mois à attendre qu'il y ait une manifestation afin de se dégourdir un peu les jambes.
Donc, ils sont là pour faire un peu de publicité.
Pour se regrouper au nom d'un slogan, le plus général possible, afin de prouver qu'au-delà des huit grands, il y a tout un tas d'autres gens qui ont probablement de meilleures idées.
Il y en a qui veulent le démontrer par leur présence dans la rue. Qui par de petits stands.
Qui par des slogans.
Qui par les danses.
Qui en tenant des coups.
Vous portez des matraques. Je mets mon casque et nous verrons bien qui l'emportera.
Pour réaliser ce plan génial, les désobéissants disobedienti négocient un parcours avec la préfecture de police qu'aucun stratège avec un minimum d'expérience des affrontements de rue n'accepterait jamais, s'il voulait sincèrement éviter de prendre des coups. Mais les coups sont utiles.
Ils servent à prouver que nous n'en avons pas donné.
Ils servent à faire voir quelque chose à la télé.
Ils servent à faire comprendre à tout le monde que les méchants nous haïssent. Car même s'il est inexprimé le sympathique slogan « Beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur » vaut aussi bien pour les grands que pour les petits.
L'article 16 de la Constitution italienne stipule
« Tout citoyen peut circuler et séjourner librement en tout point du territoire national, exception faite des limitations prévues par la loi, en règle générale pour des raisons de santé publique ou de sécurité. » Aucune restriction ne peut y être apportée pour des raisons politiques.
Pour des raisons publicitaires, cet article est de fait suspendu.
L'article suivant stipule.
Les citoyens ont le droit de se réunir pacifiquement, sans armes. Pour les réunions, même dans un lieu ouvert au public, aucun préavis n'est nécessaire. On doit préalablement soumettre aux autorités la date des réunions tenues dans un lieu public. Celles-ci peuvent les interdire uniquement pour des raisons de sécurité dûment motivées, ou parce qu'elle serait susceptible de troubler l'ordre public.
Cet article aussi est de fait suspendu.
Je dis, tout va bien.
On chante et on danse. Il y a le cortège des migrants. Il y a les concerts.
Les policiers s'infiltrent, vont et viennent, observent. D'autres se tiennent à l'écart.
L'un d'entre eux pointe le bout de son nez depuis la tourelle d'un char d'assaut et explique à Conchita De Gregorio du journal La Repubblica qu'ils attaqueront le lendemain. La fête est une diversion. Ils ont des pistolets, du sang infecté et des boules d'acide. Le policier a été bien entraîné aux techniques d'attaque des No Global.
À Rome, l'entraînement a été dirigé par des fonctionnaires de la police de Los Angeles.
Vendredi.
Le lendemain, comme prévu, ils ont attaqué.
Oui, le lendemain, comme prévu, la police a attaqué les manifestants sans armes. On a commencé à compter les premiers blessés.
Le soleil est apparu. Il ne pleut plus.
Vendredi est la journée des places thématiques.
Différents groupes se donnent rendez-vous sur les places de Gênes autour de la zone rouge.
Le réseau Lilliput s'installe place Manon.
Les Cobas se retrouvent place Paolo Danovi, le long du cours Buenos Aires.
Ce sont les premiers à avoir des visiteurs ce jour-là. À 9h du matin, il y a aussi des types vêtus de noir et encapuchonnés qui saccagent la place pour en tirer des pavés et des panneaux signalétiques.
Les Cobas cherchent à les éloigner.
La rue est à nous. Notre manifestation est pacifique.
Ils n'y gagnent qu'une paire de gifles.
La police avait établi un barrage au début du cours Buenos Aires. Là, Corte Lambruschini. Bref, ils étaient à 300 mètres de la place Paolo Danovi et ils lui tournaient le dos.
Ne comprenons pas ce qu'ils pouvaient bien garder. Peut-être ces conteneurs qui, au cours de la nuit, avaient mystérieusement fait leur apparition place Brignolet pour constituer d'imposantes barricades.
Ces messieurs qui ennuyaient les Cobas s'appelaient Black Bloc.
Les Black Blocs seront désignés à l'unanimité comme les méchants du G8 de Gênes.
Pourquoi ?
Ce sont pour la plupart des anarchistes, et c'est déjà partir du mauvais pied. Depuis l'époque de Bakounine, les anarchistes sont le bouc émissaire de tout et de n'importe quoi.
Depuis Sacco et Vanzetti jusqu'à la place Fontana.
Ils n'ont pas de bureau de presse. C'est pourquoi ils tendent à ne pas avoir la possibilité de répondre dans les procès télévisuels et médiatiques qui, dans notre beau pays, tendent à se substituer aux procès judiciaires.
Ils s'entachent du pire des délits, l'attentat à la propriété privée.
Certains le font parce qu'ils aiment tout casser, certains parce qu'ils croient dans l'être plus que dans l'avoir, et certains pour frapper symboliquement les intérêts des gouvernants, les banques, les multinationales.
Ils le font depuis un bon bout de temps, à tel point que pour tous les sommets, Gênes inclus, les McDonald's emballent leurs enseignes pour les rendre méconnaissables.
C'est leur pire délit, il suffit à légitimer n'importe quelle répression.
Un commentaire sur les faits de vendredi depuis Internet non signé.
Honte à vous! Je vous souhaite de ne jamais manifester dans ma ville et surtout de ne pas venir briser la vitrine de ma boutique qui m'a coûté des années et des années de travail et de dettes. Je ne sais pas comment je réagirai, mais je n'exclus pas d'enfiler un capuchon à la No Global et de commencer à me faire justice moi-même.
Avant Gênes, on savait peu de choses sur les Black Blocs et on en sait toujours aussi peu. La police affirmait ne rien en savoir du tout. La province de Gênes affirmait qu'elle en savait davantage et qu'elle avait averti la police quelques jours auparavant. Mais la police ne s'en souvient pas.
Les Black Blocs n'accordent pas d'interviews et ne sont pas organisés. Ce sont des groupes d'individus qui se retrouvent dans les manifestations et qui font du bordel. Ils sont tous de noir vêtus et se masquent pour agir.
Ils sont de nationalités différentes et détruisent les symboles du capital.
Les banques et les supermarchés, les McDonald's et les voitures de prix.
Ils jouent du tambour et ont une allure menaçante.
Ils utilisent des armes insolites, des poutrelles arrachées aux échafaudages, des pierres arrachées aux rues, de l'essence arrachée aux motos.
Mais à Gênes, les Black Blocs étaient très différents de ceux des autres manifestations.
Ils sont parvenus à s'infiltrer dans pratiquement toutes les places thématiques qui n'avaient pas un service d'ordre interne.
Ils n'ont jamais été arrêtés par la police.
Ils ont fait très peu de déclarations.
Nous sommes pour la plupart des anarchistes. Quand nous ne détruisons pas les symboles, nous menons pour la plupart une vie normale. Beaucoup d'entre nous travaillent dans des associations d'entraide.
J'ai envie de tout casser!
Je suis un nazi!
On a vu certains d'entre eux descendre des voitures de police avant de s'adonner au vandalisme.
Il est bien évidemment facile de s'infiltrer dans un groupe d'individus non organisés.
Et évidemment, les Black Blocs sont très utiles pour ceux qui veulent faire monter le niveau de l'affrontement.
Vittorio Agnoletto est le représentant de Genoa Social Forum, l'organisation qui a coordonné le rassemblement des No Global de Gênes. Au cours des affrontements du lendemain, il commettra l'imprudence tactique de déclarer aux forces de l'ordre constituées qu'il avait vu les Black Blocs sortir de voitures de la police et qu'il en a conservé les preuves photographiques.
La police et les carabiniers reçoivent de très nombreux signalements sur le parcours et les agissements du Black Bloc, mais ils n'interviennent jamais.
Quand les Black Blocs parviennent devant la prison de Marassi, ils trouvent de nombreuses camionnettes de carabiniers devant la prison. Mais à leur arrivée, les carabiniers laissent le champ libre aux Black Blocs qui attaquent la prison sans être dérangés.
Le commandant des carabiniers massés devant la prison Marassi déclarera que face aux tirs nourris des cocktails Molotov par les combinaisons noires, ils ont réagi en lançant une nuée de grenades lacrymogènes, mais face au nombre écrasant des assaillants, ils ont été contraints de battre en retraite.
D'après le film de Davide Ferrario, qui était sur place, on observe clairement que les Black Blocs, une trentaine de personnes, ne lancent pas de cocktails Molotov, et que les carabiniers tirent seulement deux grenades lacrymogènes, dont une finit à la mer. Après quoi, ils battent en retraite.
Une jeune fille se promène dans Gênes, toute de noir vêtue, comme elle a l'habitude de le faire pour des raisons personnelles. Elle passe près d'un détachement de police. On lui hurle.
Hé toi, tu es avec nous ?
Un homme encapuchonné, vêtu de noir, arrête une charge de carabiniers, se dirige vers eux, hurle quelque chose, fait de grands gestes avec ses bras. Les carabiniers s'arrêtent. Ils reculent. Était seulement un individu doué d'une personnalité extraordinaire.
Pourquoi les Black Blocs aperçus dans les autres manifestations étaient-ils pour la plupart anglais et autrichiens, alors qu'ici, à Gênes, ils parlent presque tous le dialecte de Rome?
Comment se fait-il qu'ils aient toujours agi en petits groupes et qu'ici, ils ne soient jamais moins de 30? Comment peuvent-ils connaître Gênes au point de parvenir à suivre un parcours alternatif, à se faufiler dans toutes les places thématiques éparpillées à travers la ville, sans jamais subir la moindre charge ni recevoir un seul coup de matraque?
Sur ces entrefaites, tandis que quelques observateurs lucides commencent à se poser ces étranges questions, rue Tolmède, l'enfer commence. Il est presque 3h de l'après-midi.
Les carabiniers sont en train de charger le cortège des désobéissants, parmi lesquels on trouve les combinaisons blanches de Casarini, le long du parcours négocié avec la préfecture de police.
Les combinaisons blanches se rendent à la manifestation, protégées par des armatures rudimentaires en carton et en mousse de caoutchouc, précédées par une tortue soutenant un mur de plastique. Elles descendent le cours Europa, le cours Gastaldi, et s'engagent rue Tolmède.
La rue Tolmède est légèrement en pente. Les manifestants ont sur leur droite le terre-plein du chemin de fer, qui est là depuis toujours, sur leur gauche des immeubles datant du 19e siècle, et face à eux, un cordon de carabiniers qui est au contraire une surprise.
À la hauteur du cours Torino, les carabiniers bloquent la tête du cortège. Ils commencent à tirer des grenades lacrymogènes.
Peu après, la tortue de plastique des combinaisons blanches cède.
Par ce qui m'immense, le cortège ne peut pas reculer. La queue se trouve encore cours Gastaldi. Elle ignore ce qui est en train de se passer rue Tolmède. Et il n'y a aucune rue latérale pour prendre la fuite à cause du terre-plein et de ces vieux immeubles.
Les manifestants, suffisamment loin pour ne pas être aveuglés par les grenades lacrymogènes et l'épouvante, se demandent comment les carabiniers ont bien pu décider d'attaquer le cortège et pourquoi de cette manière. Toute fuite étant impossible, il est extrêmement improbable que le cortège se disperse de lui-même sans défier la défense antiaérienne. Et par conséquent, l'action des carabiniers doit être imputée ou à une distraction ou à une volonté de provoquer une réaction violente de la part des manifestants pris au piège.
Cette réaction s'est produite peu après.
Les pierres volent et les barricades sont érigées. Les carabiniers reculent de temps à autre. De temps à autre, ils repartent à l'attaque.
Les désobéissants ne sont pas armés. Toute la matinée, au stade Carlini, ils allaient et venaient avec des mégaphones. Notre cortège est pacifique. Ne ramassez rien par terre. Ne brandissez pas de bâtons, de pierres.
Nous sommes ceux qui veulent encaisser les coups, pas en donner.
De fait, leur costume de scène se révèle absolument inadapté face aux charges des engins blindés.
La police prête main forte aux carabiniers. Ils cherchent à casser le cortège par des lancers de grenades lacrymogènes, des charges de Celerini. La police utilise des camions d'arrosage. Ils lancent des jets d'eau urticantes.
Les manifestants s'épuisent, reculent, jouent à la corrida avec les camionnettes. Les camionnettes des carabiniers jouent aux autotamponneuses. Un blindé de la police se lance délibérément contre une voiture renversée.
Comme ça, pour faire du bordel, pour qu'on voit qu'il est blindé.
Une camionnette des carabiniers s'arrête sans pouvoir redémarrer. Le chauffeur prend la fuite. Lorsque les autres carabiniers s'en aperçoivent, ils lui emboîtent le pas.
La camionnette est incendiée.
Un peu plus loin, place Alimonda, une Land Rover des carabiniers lancée à la poursuite d'un petit groupe de manifestants ne parvient pas à les renverser et achève sa course contre une poubelle.
Un garçon s'approche de la Land Rover, un extincteur vide à la main.
Un carabinier lui tire 2 balles dans la tête.
Place Alimonda, Carlo Giuliani meurt à l'âge de 23 ans. Place Alimonda, Mario Placanica, un carabinier conscrit, devient assassin à l'âge de 20 ans.
Un policier se lance à la poursuite d'un manifestant. Il hurle la gorge déployée.
C'est toi qui l'as tué avec ta pierre! C'est vous qui l'avez tué!
Tandis que la tache de sang s'élargit encore sur l'asphalte, un journaliste ramasse à cet endroit une douille de pistolet.
Les carabiniers forment un carré autour du corps.
Gianfranco Fini, le leader d'Alleanza Nazionale, le parti post-fasciste du gouvernement, déclare aussitôt que le carabinier a agi en état de légitime défense, avec un sens de l'opportunité et une clairvoyance extraordinaire en regard de la lenteur de la justice qui, 8 mois plus tard, n'est pas encore parvenue à le prouver.
Les rumeurs les plus diverses commencent à circuler sur l'identité du mort.
Un étranger, un punk bestial, un black bloc, un toxico.
La nouvelle se répand à l'intérieur de la zone rouge. À Versailles,
un sous-secrétaire du gouvernement se rend auprès de Berlusconi et prononce ces mots. Monsieur le Président, il y a le mort.
Non pas un mort, le mort, celui qu'on attendait.
Le soir, Bush sourit et déclare
« Genoa is very nice !»
On lui demande s'il est au courant pour le mort. Il prend tout de suite un air sinistre et décrète
« Oh, yes, it's tragic !»
Le mort se nomme Carlo Giuliani. Il est né à Rome, il réside à Gênes, il a 23 ans. Il vit avec une fille dans une maisonnette située près de celle de ses parents. Et ce jour-là, il voulait aller à la mer. Mais au dernier moment, il a décidé d'aller manifester avec ses amis.
Pourquoi nous importe-t-il de savoir ce qui est réellement arrivé place Alimanda ?
Pourquoi n'acceptons-nous pas que parmi les si nombreuses personnes qui sont allées manifester pacifiquement à Gênes, il y avait peut-être également des violents, et que dans un crescendo de panique, l'un d'entre eux a été tué à cause d'un excès de légitime défense ?
C'est plausible, et cela nous conviendrait tout à fait si nous ne soupçonnions fortement que ce n'est pas la vérité.
Nous n'acceptons pas qu'un fou fanatique ait tué Kennedy.
Nous n'acceptons pas que l'anarchiste Pinelli soit mort sous le coup d'un malaise actif. Nous n'acceptons pas les mensonges d'État.
Nous n'acceptons donc pas que Carlo ait été tué par une pierre lancée par les manifestants, que ce serait un membre du Black Bloc.
Et nous n'acceptons pas davantage ce qu'il continue à nous raconter.
Dans la fameuse photo de Martinez publiée par tous les journaux du lendemain, on voit clairement l'incroyable Hulk, 1m65, brandissant un extincteur contre le Defender encerclé.
Puis le coup de feu, etc.
Légitime défense.
Bien des mois plus tard est publiée la même photo, prise de profil plutôt que de derrière.
Carlo Giuliani est à 4 mètres du Defender.
4 mètres, c'est d'ici.
Ici.
À là.
Là.
D'après les positions des autres personnes présentes sur la place, confrontées avec les autres photos et les prises de vue où l'on repère le coup de feu, c'est à cet instant que celui qui a tiré a décidé de le faire.
Légitime défense.
Sur encore une autre séquence photographique, on voit le pistolet pointé bien avant que Carlo s'avance de façon menaçante.
Il est pointé contre un autre jeune. Celui-ci le voit et disparaît. Le pistolet demeure pointé.
Carlo, à cet instant, est hors de portée de tir. Il ramasse l'extincteur. Peut-être a-t-il vu le pistolet. Peut-être veut-il empêcher qu'il tire.
Deux coups de feu sont tirés. L'un atteint Carlo à la pommette, l'autre le mur d'une église.
Carlo est à terre.
La Land Rover des carabiniers, prétendument coincée, redémarre en 5 secondes, fait marche arrière, écrase le corps de Carlo, passe la première, l'écrase une seconde fois, s'éloigne. Une diesel.
Cavatayo, le chauffeur de la Land Rover, est interrogé. On lui demande s'il n'a pas senti le corps de Carlo en manœuvrant. Il répond
Je pensais que c'était des ordures.
Ah oui.
On lui demande s'il n'a pas entendu les coups de feu. Il répond qu'il a seulement entendu les hurlements. Il n'a pas entendu les coups de feu.
Ça, c'est la reproduction fidèle d'un Beretta Parabellum calibre 9, le pistolet d'ordonnance des carabiniers.
Criez tous, s'il vous plaît.
Moi, je n'ai rien entendu.
Je sais pas, des coups de feu ?
Non, je crois pas.
Mario Placanica est interrogé.
En fait, je n'y voyais rien. À cause du sang et à cause des grenades lacrymogènes, j'entendais seulement les pierres lancées contre nous. J'ai voulu tirer en l'air.
Il ne mentionne ni Carlo, ni l'extincteur.
Légitime défense.
Placanica a toujours interrogé.
Je me rappelle avoir mis le cran de sécurité à mon Beretta d'ordonnance et d'avoir ensuite mis une balle dans le canon. Puis, sans m'en rendre compte, j'ai dû retirer le cran de sécurité et sans m'en rendre compte, ma main s'est contractée.
Deux fois. Deux coups. Fais donc attention.
Légitime défense.
Place Alimanda, Placanica était blessé, du sang coulait sur ses yeux. Il était 17h20, il arrive à l'hôpital après 20h avec une blessure qui coule comme une fontaine.
Pourquoi n'est-il pas mort vidé de son sang ?
Peut-être parce qu'il ne s'était pas blessé, Place Alimanda.
Et alors ? Comment s'était-il blessé ?
Pendant que les coups lui apprenaient comment les choses se sont vraiment passées, Place Alimanda.
Qu'y avait-il dans la Land Rover ?
Placanica a toujours déclaré qu'il s'était réfugié dans le véhicule parce qu'il était intoxiqué par les gaz des grenades lacrymogènes CS.
Placanica était grenadier, autrement dit, affecté au lancement des grenades.
Le CS, d'après Placanica et les syndicats de police, fait mal. Il fait mal à ceux qui le lancent et à ceux qui le reçoivent. Et Placanica se sentait mal.
Il se réfugie dans une Land Rover dans laquelle se trouve uniquement le chauffeur. L'équipage de la Land Rover, on ne sait pas où il est.
L'officier manque à l'appel.
Ensuite, un autre collègue qui se sentait mal monte à bord.
Placanica ne le connaît pas. Cavatayo ne le connaît pas.
Un peu plus tard, les carabiniers font savoir qu'il s'agissait de Raffonet, un jeune carabinier titularisé depuis peu.
Alors, Placanica et Cavatayo se souviennent.
Ah si, c'était Raffonet.
C'est vrai.
Revenons là-bas. Le corps de Carlo est à terre, la Land Rover s'éloigne. Les carabiniers se forment en carré.
Il faut attendre 15 minutes pour qu'un secouriste du Genoa Social Forum se rende auprès du corps de Carlo.
Le cœur bat encore.
Vous vous rappelez Guccini ?
Il respirait encore lorsqu'on le releva.
On lui retire son passe-montagne, bleu. Il a une blessure très grave à la tête.
Il est impossible qu'il ait reçu cette blessure avant que les coups de feu aient été tirés.
On a dû la lui infliger au cours de ces 15 minutes. Probablement un carabinier qui lui a lancé une pierre.
Vous vous souvenez ?
Salaud, c'est toi qui l'as tué avec ta pierre.
Place Alimanda. Carlo Giuliani meurt à la suite de ses blessures, après avoir été écrasé par une Land Rover des carabiniers, reçu un coup de feu et un coup de pierre en pleine tête.
Légitime défense.
Beau travail.
Vers le soir, une main armée d'un feutre efface l'inscription Place Gaetano Alimanda et la remplace par
Place Carlo Giuliani, gamin.
C'est l'une des plus belles choses qui étaient écrites à ce propos.
Carlo Giuliani était un gamin.
Ce n'était ni Gramsci, ni un voyou. C'était un gamin. Et ce jour-là, il est mort.
Il est sorti de chez lui avec son maillot de bain sous le pantalon de sa combinaison, car il ne faut pas perdre une seule occasion de se baigner.
Il est allé place Manin et il a vu les carabiniers et la police qui tabassaient à coups de matraque les membres de réseau Lilliput, des pacifistes, des catholiques, des dames d'un certain âge, des journalistes.
Il est allé rue Tolmed et il a trouvé la guerre.
Rue Tolmed, il est à visage découvert et il regarde autour de lui pour comprendre ce qui se passe.
Il met son passe-montagne bleu.
Place Alimanda, il y a un Defender, un de ceux qui, il y a peu, lançait des grenades lacrymogènes. Il s'est perdu au cours de la retraite, au début de cette lutte inutile pour le territoire.
Le Defender est pris d'assaut par les manifestants.
Nous ne savons pas si Carlo attrape l'extincteur pour participer à une guerre qui, pour autant qu'il le sache, pourrait être un nouveau 25 avril. Ou pour arrêter un homme, encapuchonné comme lui, sur le point de tirer.
Il meurt. Carlo sait-il pourquoi il est mort ?
Saurons-nous jamais qui l'a tué ?
Et pourquoi ?
Une grande partie des Italiens pensent que c'était un voyou.
Qu'il l'a bien cherché.
Que si ce jour-là, il était resté chez lui, il ne lui serait sûrement rien arrivé.
Que le carabinier a bien fait de tirer.
Puis Carlo a encore eu de la chance. Tant qu'il en ira ainsi, les institutions sont tranquilles.
Et tant qu'elles sont tranquilles, les carabiniers sont couverts.
Et tant qu'ils sont couverts, ils n'ont aucune raison de nous dire la vérité.
Et nous ne la connaîtrons pas.
C'est une tragédie que rien, naturellement, ne peut justifier. Et au-delà de ce drame, il y a tout de même eu ici, je ne sais pas combien, 130, 150, 200 000 manifestants venus d'un peu partout. C'est tout de même quelque chose. Ces manifestants ne sont pas venus simplement pour obéir à des mots d'ordre de telle ou telle organisation révolutionnaire. C'est quelque chose de beaucoup plus profond.
Samedi.
Le soir, on se retrouve comme on s'était retrouvé le soir d'avant.
Parler, débattre, discuter.
Le sentiment du tragique n'est pas encore trop écrasant.
Un jeune est mort, t'as entendu ? Assassin.
Mais tu as vu comment ils chargeaient ? Personne les a attaqués. Jamais vu une histoire pareille.
Toute la soirée, les discussions vont bon train, accompagnées par le bruit des hélicoptères qui survolent la ville.
Agnoletto déclare « Le coût a été très élevé, mais nous avons gagné. »
Le gouvernement demande aux manifestants de ne pas manifester. Les manifestants demandent aux grands de clore le sommet.
Blair répète ce qu'il a dit à Göteborg. What we are discussing here is vitally important.
Ce dont nous sommes en train de discuter est d'une importance vitale.
Bush ajoute que personne n'a autorisé ces manifestants à représenter les pauvres du monde.
C'est lui qui les représente,
le pétrolier américain.
Laissons tomber.
Bref, samedi, le sommet continue.
Et il y a 300 000 manifestants dans la rue.
C'est une marée. La marée descend depuis le cours Italia.
Il fait chaud.
Il y a de la colère, de la tristesse, une envie de revanche dans l'air.
Cette fois, nous sommes une marée. Nous sommes très nombreux. Cette fois, nous sommes une marée.
Cette fois, nous sommes une marée. Nous sommes très nombreux.
Les Black Blocs continuent à tout casser, ça et là, sur le bord de mer.
La police commence à tirer des grenades lacrymogènes contre le cortège.
Un journaliste de la troisième chaîne de télévision demande pourquoi.
Vous ne voyez pas qu'ils avancent de façon menaçante ? Nous tirons des grenades lacrymogènes pour les faire pleurer un petit peu, pour qu'ils se tiennent tranquilles.
Depuis quand les gaz CS ont-ils un effet calmant ?
La police brise le cortège en deux tronçons au début du cours Torino.
300 000 personnes cherchent à s'enfuir.
La police charge.
Les carabiniers chargent.
La garde des finances charge.
Les manifestants, quand ils le peuvent, demeurent groupés.
Quand ils n'en peuvent plus, ils s'enfuient. Quand ils s'enfuient, ils sont poursuivis. Quand ils se retrouvent isolés, on les rattrape.
Jetés à terre et frappés à coups de matraque par des groupes de 5, 6, 10 policiers.
Les tabassages ont lieu même très loin du cortège.
Des manifestants de tous âges sont roués de coups.
Des femmes,
des journalistes,
des hommes,
des médecins,
des personnes âgées,
des photographes.
200 blessés qui ont peur d'aller aux urgences parce que la police les y arrêterait.
Giulietto, qui est ça ?
Et je pense à tant d'autres surprises désagréables dans les prochains mois. Pour ces canailles qui déshonorent l'uniforme, qu'ils prennent pour un laissez-passer, pour l'impunité et l'arbitraire.
Des individus auxquels on n'a pas appris que frapper des gens sans défense revient à défendre une cause sans honneur.
Je souhaite, pour le moins, que quelqu'un ait la capacité et la volonté de réfléchir et d'agir lorsque d'autres informations émergeront pour nous aider à établir la vérité. Car il est évident que toute cette histoire nous a confrontés à de nouvelles interrogations.
Comment la police italienne est-elle constituée ?
Qui la commande ?
Qui forme ses cadres ?
Qui lui donne des leçons de vie en plus des leçons techniques ?
Gianfranco Fini est à Gênes, à la préfecture de police. Il est allé encourager et féliciter ses hommes pour le travail qu'ils sont en train d'accomplir.
À la question « Que faisiez-vous là ?», il a répondu que c'était son devoir institutionnel.
Et lorsqu'on lui a fait remarquer que sa petite visite à la préfecture de police ne faisait justement pas partie de ses devoirs institutionnels, il a modifié sa déclaration.
J'étais juste passé les saluer.
Un salut Romain.
La nuit.
Le sommet s'est conclu et ceux du G8 sont satisfaits de leur travail. Ils partiront le lendemain.
Les manifestations se sont conclues et les manifestants, eux aussi, partiront le lendemain.
Apparemment, c'est le moment d'éteindre les caméras, de compter les blessés et de faire le point sur la situation.
Mais il n'en est rien.
L'école Armando Diaz a été gentiment prêtée au Genoal Social Forum qui en a fait son quartier général.
À 23h, il y a quelques ordinateurs éteints et 96 manifestants qui dorment.
Ils arrivent tout phare éteint. Ils hurlent deux fois « police », puis un blindé défonce le portail et environ 200 carabiniers, policiers et autres détachements confondus en tenue anti-émeute font irruption dans l'école.
Un hélicoptère survole l'école.
Devant le portail gardé par la police, une foule de journalistes, médecins, avocats, parlementaires demandent à pouvoir entrer pour témoigner, contrôler, soigner.
Impossible.
Seulement après coup.
Depuis l'intérieur de l'école Diaz, 2 heures de hurlements ininterrompus.
En sortent 30 brancards.
Tête cassée.
Côte brisée.
Rates perforées.
Dents perdues pour toujours.
Ils sont entrés en vertu de l'article 41. Perquisition pour soupçon de détention d'armes.
Pas besoin de mandat.
Des matraques non plus. On n'a jamais vu la Celere perquisitionnée.
On les a fait s'allonger à même le sol et on les a passés à tabac. Les chefs hurlaient.
Attention à ne pas les tuer.
Certains ont cherché à s'enfuir, ça n'a pas marché.
Agnoletto, le porte-parole du Genoa Social Forum, demande à entrer. Naturellement, on le lui refuse.
Un policier en civil lui hurle.
Alors, elles sont où vos photos?
C'est comme ça qu'on apprend à la fermer.
60 blessés, 3 avec un pronostic de guérison réservé.
93, arrestations.
La police s'en va. Nous avons fini, merci, vous pouvez entrer.
Il y a du sang partout, des dents, un vrai saccage. Des mares et des traînées de sang sur les murs, sur les radiateurs, sur les portes, partout.
Ils ont laissé 2 filles à l'intérieur. Elles se tiennent dans un recoin, dans les bras l'une de l'autre. L'une n'arrive pas à pleurer, elle a du mal à respirer. L'autre demande...
Why?
Why? Why?
Je ne sais pas.
Le lendemain tombent les premières dépêches. L'école Diaz perquisitionnée, un policier blessé.
Plus tard, rectificatif, en fait le policier n'est pas blessé, il va bien.
Les forces de l'ordre ont toujours mis en avant le coup de couteau donné à un flic comme étant à l'origine du massacre.
Les manifestants opposaient une résistance violente à la force publique.
Mais le poignardeur a réussi à prendre la fuite et à se mêler à la foule. Il n'a jamais été reconnu.
Il faisait noir dehors. À l'intérieur, il y avait la lumière. C'est ce qui résulte des prises de vue.
Il y a un mois, l'expertise des RIS, l'unité d'enquête scientifique, a révélé que la coupure sur le blouson et celle de la veste de l'uniforme ne coïncident pas.
Les vêtements ont dû être torturés séparément.
Le policier est mis en examen pour faux témoignage et pour avoir tenté de mettre la police sur une fausse piste.
Son avocat demande une nouvelle expertise et annonce des recours.
Le ministère public ne lui accorde pas de nouvelle expertise. L'homme de loi renonce au recours.
Je demande à un carabinier de Gênes ce qu'il en pense.
Il brise pour un instant la loi du silence.
Des conneries comme ça. Ou on les fait bien comme il faut, ou on s'abstient. Après, ça ne sert à rien de s'en prendre au RIS. On se comprend, et je ne dis rien d'autre.
Et la loi du silence retombe.
Dimanche matin, lors d'une conférence de presse, la police montre ce qu'elle a saisi.
5 bâtons de bois. 2 masses de chantier. 1 pioche.
7 tubes d'aluminium.
1 pelle.
2 marteaux.
On suppose que ces objets se trouvaient sur le chantier situé derrière l'école Diaz. Mais la police ne dit pas où elle a pris ces objets. Et puis
20 combinaisons noires parfaitement en ordre, jamais portées.
2 cocktails Molotov.
1 trousseau de clés.
4 bracelets à cabochons.
Quelques t-shirts.
15 appareils photo.
3 téléphones portables.
1 thermos.
1 livre. 2 plans de Gênes.
3 feutres.
17 lunettes de piscine.
2 couteaux, 1 de cuisine, 1 de camping.
10 bombes de peinture.
1 perruque.
1 plastron de journaliste.
1 flacon de gouttes homéopathiques.
7 masques à gaz.
1 lotion solaire.
6 paires de protège-tibia.
9 passe-montagnes de différentes couleurs.
Une journaliste de la BBC doit poser 2 questions.
Avez-vous par hasard également trouvé des armes?
Tout ce que nous avons trouvé est sous vos yeux.
Et 2e question, pourquoi donc avez-vous saisi un thermos?
Je ne suis pas autorisé à vous répondre.
En juin 2002, un policier reconnaît les cocktails Molotov trouvés dans l'école Diaz.
Ce sont ceux que j'ai trouvés cours Italia et que j'ai remis à mes supérieurs. J'ignore comment ils ont pu finir à l'école Diaz.
Ironie de l'histoire, le policier s'appelle Guaglione.
Gamin, tête en l'air en napolitain.
C'est un gamin qui a trouvé les cocktails Molotov, et puis ils se sont retrouvés parmi les pièces à conviction de l'école Diaz.
Quoi qu'il en soit, le juge d'instruction ordonne la remise en liberté de 90 des 93 arrêtés.
Mais ils sont à l'hôpital. Mais ce n'est pas fini.
Dimanche.
La caserne de police de Bolzaneto est située non loin de Gênes, sur les collines.
C'est là qu'on a emmené les manifestants arrêtés à l'école Diaz.
Depuis le début du G8, 600 manifestants sont passés par là, avant d'être mis en liberté ou transférés vers des prisons proches.
Là, il n'y a plus les caméras de télévision comme vendredi.
Il n'y a plus les témoins qui se trouvaient devant l'école Diaz.
Là, on ne peut rien voir.
On ne peut rien reconstituer.
Nous possédons seulement les témoignages de ceux qui y étaient.
Là, au cours de la garde à vue, la police chantait et faisait chanter aux détenus.
1, 2, 3, vive Pinochet. 4, 5, 6, mort aux Juifs. 7, 8, 9, rien à foutre du petit négro.
Les témoignages des détenus de Bolzaneto rappellent en effet beaucoup le Chili de Pinochet.
Ils nous ont forcés à rester debout, face au mur, bras levés, pendant des heures.
Beaucoup d'entre nous avaient des membres fracturés.
On m'a arraché les cheveux, pissé dessus.
J'ai subi des menaces sexuelles.
Des coups de pied dans les testicules.
On m'a demandé, dans un anglais approximatif, « Quel est ton gouvernement ?» J'ai répondu « La Grande-Bretagne ?» On m'a frappé. La bonne réponse était la police.
Je n'ai pas pu changer ma serviette périodique.
On a brûlé les poils de ma poitrine avec un briquet.
On m'a fait signer des feuilles blanches avant de me relâcher.
On m'a aspergé le visage de gaz lacrymogène.
On nous a fait crier « Vive Mussolini !»
Why? Why?
Une jeune Suédoise est traînée par les cheveux. Les Cellerini éteignent leurs cigarettes sur les mains d'un Français. De ma vie, je n'ai jamais vu autant de violence.
Ils enfilent des gants noirs rembourrés. Et une heure durant, ils ne cessent pas de frapper.
Je continue à rêver d'un type qui est jeté contre un mur et laisse sur la cloison un filet de sang.
La bande sonore de l'horreur est une cantilène. Les Cellerini la connaissent par cœur.
Maintenant, je l'ai apprise, moi aussi, hélas.
On a pissé sur certains. D'autres étaient frappés s'ils ne chantaient pas Facetta Nera.
Une jeune fille a vomi du sang et les capots de la police pénitentiaire, le GOM, se contentaient de la regarder.
On menaçait les filles de les violer avec des matraques.
On nous a fait manger très peu et on nous a privés de sommeil. Nous n'avons pas pu contacter un avocat. J'étais en prison avec une vingtaine de personnes et je crois qu'au moins 6 d'entre nous avaient un bras cassé.
J'étais un masque de sang. J'avais une entaille profonde sur la tête et c'est seulement le lendemain qu'on m'a posé 20 points de suture. Dès cet instant, un enfer de coups, d'insultes et de violences qui a duré jusqu'au samedi après-midi, lorsque je suis arrivé dans la prison d'Alessandria, dans une cellule, j'ai envie de dire, enfin.
Je me souviens surtout d'une jeune Allemande, à qui on avait écrasé les dents de devant, le menton et la mâchoire. Et on l'avait envoyée à l'hôpital seulement pour lui poser des points de suture, et ensuite on l'a réexpédiée dans la caserne. Elle souffrait de douleurs lancinantes au visage, se moquait d'elle. On ne l'écoutait pas.
Un employé de la police pénitentiaire a frappé un jeune en le cognant contre le lavabo des toilettes. Il lui hurlait « Pauvre merde, je vais t'ouvrir la tête pour pisser dedans !»
Le médecin a arraché les piercings des mamelons et du nez des détenus.
Dans la caserne Bolzaneto, on nous a frappés sauvagement pendant 16 heures.
À certains, on a déchiré leur carte d'identité en disant « Tu vois ?» Ici, tu n'es plus personne. Tu n'as aucun droit.
On nous a forcés à rester debout face au mur, les bras levés pendant des heures.
On m'a arraché les cheveux.
J'ai subi des menaces sexuelles.
Pissé dessus. Des coups de pied dans les testicules.
Je n'ai pas pu changer ma serviette périodique.
On a brûlé les poils de ma poitrine avec un briquet.
On m'a fait signer des feuilles blanches avant de me libérer.
On m'a aspergé le visage de gaz lacrymogène.
On nous a fait crier « Vive Mussolini !»
Why? Why?
Également beaucoup parlé de prendre en considération les raisons des policiers, pas seulement celles des manifestants.
Les raisons de la matraque qui frappe, pas seulement celles de la tête qui s'ouvre.
On a enrôlé Pasolini, qui à l'époque des grandes contestations, disait que les vrais prolétaires étaient les policiers. Le plus souvent de pauvres jeunes gens du Sud qui n'avaient pas le choix.
Les étudiants qui pouvaient se permettre de manifester étaient des fils à papa et ils n'éprouvaient aucune sympathie pour eux.
Peut-être est-il possible d'appliquer ce raisonnement au carabinier meurtrier âgé de 20 ans qui, à l'hôpital, en état de choc, lorsqu'il a pris la nouvelle de la mort de Carlo, a demandé « Est-ce que je pourrais rester carabinier ?»
Et qui, à la télé, le tribunal public de notre peuple, a la question
« Pourquoi es-tu carabinier ?»
Je ne sais si c'était malicieusement ou naïvement, n'a pas répondu.
Pour servir l'État.
Ni.
Pour protéger mes concitoyens.
Ni même.
Pour faire quelque chose d'utile.
A dit.
Parce que là d'où je viens, il y a beaucoup de chômage.
Il est plus difficile de l'appliquer à la main qui arma la sienne. Il est plus difficile de l'appliquer aux massacreurs de l'école Diaz, à ceux qui font chanter « 1, 2, 3, vive Pinochet !» à ceux qui te crachent dans la bouche et te pissent dessus.
Les raisons des policiers.
Les raisons des carabiniers.
La raison d'État.
Je les écoute, ces raisons.
Les raisons de ceux qui pensent que face au délit de vandalisme, l'homicide est légitime.
Les raisons de ceux qui pensent que celui qui casse une vitrine et celui qui casse une tête exercent la même violence.
Les raisons de ceux qui pensent que si 3 milliards de personnes vivent avec moins de 2 dollars par jour, c'est qu'ils n'ont pas de chance, ce n'est pas notre faute.
Le père de Carlo, peu avant que Scajola, le ministre de l'Intérieur, ne se démette pour d'autres raisons peu reluisantes, lui demanda de reconnaître les responsabilités, les fautes de l'État. Sinon, pour la mort de son fils, au moins pour l'école Diaz, pour Bolzaneto, pour les passages à tabac dans les rues.
Scajola répondit que face à la violence, l'État n'est pas fautif. Il doit maintenir l'ordre et que si parmi les forces de l'ordre, quelques individus ont abusé de leur pouvoir pour commettre des actes de violence, la responsabilité de ces agissements incombe à ces individus, non à l'État.
La constitution italienne, sur laquelle Scajola a prêté serment 2 mois avant les événements de Gênes, stipule en son article 28
« Les fonctionnaires, les employés de l'État et ceux des organismes publics sont directement responsables selon les lois pénales, civiles et administratives des actes accomplis en violation du droit. » En pareil cas, la responsabilité civile s'étend à l'État et aux organismes publics.
Mais l'État n'est pas fautif.
Et la constitution italienne vaut moins qu'un talk show.
Il est donc légitime que les forces de l'ordre, pour protéger les vitrines de leur père, cassent la tête de leur frère.
Parce qu'on leur garantit l'impunité.
Parce que si la justice enquête sur leur compte pour séquestration de personnes, violences et menaces sexuelles, ils protestent.
Donc l'État les défend et les réintègre dans leur service ?
Je cite moi aussi Pasolini. Quand il disait « Je sais qui sont les commanditaires des massacres, mais je n'en ai pas les preuves. »
Je sais qui sont les commanditaires des massacres ?
Je sais qui sont ceux qui, avec la fumée de 2 gratte-ciel, cherche à couvrir le massacre de Gênes et une guerre injuste, comme toutes les guerres.
Une guerre programmée avant le 11 septembre et même avant le G8.
Je sais qui a voulu couvrir les raisons de la contestation avec le massacre de Gênes. Je sais qui a voulu prouver avec les Black Blocs qu'un monde différent n'est pas possible sans violence.
Je le sais,
mais je n'ai pas les preuves.
Nous avons des images, les images de Gênes.
L'image de la tragédie moderne.
Étonné.
Sans aucun sens.
Et sans catharsis.
Ce... why.
Thank you.
puis la stupeur passe et la tragédie continue.
Parce que l'après-gêne a toujours été pire que gêne.
Parce que ceux qui pensaient qu'ils ne seraient pas écoutés, mais poliment, ont compris qu'ils étaient tout simplement en danger.
Le peuple de Seattle et de Gênes a commencé à lécher ses blessures et à se demander comment aller de l'avant.
Division et débat.
Puis il y a eu le 11 septembre.
La tragédie dans le jardin de l'empereur.
La réaction a été exemplaire.
Géopolitique sanglante avec le prétexte de la vengeance.
Et l'Empire a transformé tous les mots pour nous égarer dans la tour de Babel.
Avec moi ou contre moi. Avec Coca-Cola ou avec les talibans. La cravate ou la burqa. L'OTAN ou les violeurs de ta sœur. Les assassins de ta tante.
Et les souverainetés nationales ont été transformées en états voyous.
Des lois nouvelles ont transformé les luttes pour l'indépendance des peuples opprimés en terrorisme.
Le deuil imposé face au tour a transformé le désaccord politique en anti-américanisme.
Il a fallu plus de temps pour que la guerre change de nom. On a écarté le mot « croisade ». Elle est devenue « paix infinie »,« justice infinie ». Puis, elle s'est modifiée en « liberté durable ».
Et l'oxymore s'est fait chair.
Le petit boulot de l'Afghanistan bouclé, le héros anglais de Bush a déclaré qu'aujourd'hui l'Afghanistan est sans doute aucun un pays meilleur. Il a fait un résumé exemplaire de la mondialisation, expliquant que désormais, ce qui arrive dans le monde nous concerne. Que s'il y a une crise au Moyen-Orient, nous nous en apercevons aussitôt par le prix de l'essence, ici, à Londres. Et que donc, on ne peut rester les bras croisés. Il a conclu qu'il fallait faire la guerre en Irak.
Le mouvement a été le grand absent de la question afghane. Il a déserté le sommet de Pratica di Mare sur l'élargissement de l'OTAN à l'Est et il a commencé à se ressouder sur l'Irak.
Sur ces entrefaites, la répression n'a pas été timide.
Le délit politique revient à la mode.
Les désobéissants du Sud sont arrêtés pour association subversive.
Puis libérés une dizaine de jours plus tard. Parce que dans le théorème de l'accusation, il n'y avait pas même un commencement de preuve plausible pour les garder en prison. Mais la procédure suit son cours.
Des accusations moins accablantes mais plus précises ont été portées contre les manifestants arrêtés à Gênes. Vandalisme, résistance à la force publique. Figure également dans les dossiers d'accusation le mystérieux délit de participation psychique. Une sorte d'appui moral, coupable.
Demande de classement sans suite du dossier Giuliani. Nous ne voulons pas voir de carabiniers au tribunal.
La brigade du 20 juillet pose deux bombes pour tuer devant la préfecture de police de Gênes. Elle ne tue personne et menace personnellement de mort le carabinier pour lequel une demande de classement sans suite d'une inculpation pour homicide volontaire venait tout juste d'être requise par le parquet.
Si les bombes avaient tué, elles auraient rappelé la place Fontana. Comme elles n'ont pas tué, elles rappellent une saloperie.
Quand tout ceci a-t-il commencé ? C'est difficile à dire.
Le moment où nous avons commencé à nous en apercevoir et à nous en préoccuper sérieusement, il s'appelle Gênes. Nous partons de là.
De Fausto Paravidio, traduit de l'italien par Philippe Dimeo, et publié aux éditions de l'Arche. Enregistré en public au Théâtre National de Strasbourg le 9 avril 2011. Avec les élèves comédiens des groupes 39 et 40 de l'école du TNS.
Céline Altparmak.
Suzanne Aubert.
Kimberley Biscaino.
Léon Bonafé.
Lorraine Brun.
Chloé Chaudois.
Eugene Choi.
Kiralina Krasmianski.
Hugo Aymar.
Jules Garraud.
Thaïs Lamotte.
Jérémy Malbrel.
Thomas Mardel.
Céline Martin-Sisteron.
Malvina Morisseau.
Sarah Pasquier.
Romain Pierre.
Bertrand Poncet.
Charles Evaco.
Eva Zink.
Et avec les élèves régisseurs, Mathilde Chamou, Diane Guérin, Maxime Hag, Thomas Laigle, Florian Meneret et Fanny Perrault. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage, mixage, Pierre Mine, Adrien Roch. Sonorisation des casques infrarouges, Jean-Marie Leblon, Patrick Schaffler. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Cédric Ossir. France Culture remercie chaleureusement Roland Reinwald, Bernard Sam, Thomas Bourgueil, Dominique Lecoyer et toute l'équipe du TNS pour leur accueil et leur aide précieuse.
Et puis donc pour ce prochain G8, sachez que le prochain sommet aura lieu du 26 au 28 juin 2002 dans la localité de Kananaskis, encerclée par les Rocheuses du Canada.
Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce di follia, foschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia. E intanto, nell'ombra dei loro armadi, tengono lini e vecchie lavande. Lasciaci tornare ai nostri temporali. Genova, ai giorni tutti uguali. Immobile campagna con la pioggia che ci bagna i gamberoni rossi, solo un sogno e il sole è un lampo giallo al parabrisi. Ma quella faccia un po' così, quelle espressioni un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova. Ratarata, taratata, ratatarata, taratata.